Centre de documentation historique sur l'Algérie, 119 rue de l'Ouest, Paris 15e. Entretien avec Monsieur Paul Sebaoun dans la série Les Pieds Noirs dans la guerre mondiale, le 8 novembre 1942.
Au compte des événements anciens, et je dirais même presque, ça fait plus de 40 ans en fait, mais qui ont une très grande importance historique, le 8 novembre 1942, et vous avez participé à ces événements sur place en Algérie. Alors avant de passer au récit de ce que vous avez vécu, je voudrais tout de même vous demander de nous préciser un petit peu quelle était l'atmosphère en Algérie à cette époque-là et dans les mois et les années qui ont précédé. La France était vaincue. Végan était en Algérie, il y avait des mesures anti-juives. Pourriez-vous nous expliquer un petit peu la situation?
Alors, dès l'armistice, les populations d'Algérie ont été prises en main par le gouvernement de Vichy, en réalité. Et l'amiral Abrial avait été mis à la tête de l'Algérie au nom du maréchal. Il avait créé la Légion des combattants, qui était une association d'anciens combattants. Et la Légion s'est vue confirmer la mission suivante, surveillance des ennemis du régime d'abord, et propagande en faveur du maréchal Pétain. Alors, quelques temps après, en septembre 40, le général Végan, nommé délégué général pour l'Afrique française, et arrive en Algérie. Et peu après son arrivée, les premières lois raciales sont promulguées. D'abord, le 3 octobre 40, la publication du statut des Juifs. Le 7 octobre, l'abrogation du décret Crémieux, signé par le maréchal Pétain. Le décret Crémieux avait attribué, je le rappelle, la citoyenneté française à tous les Juifs algériens. Alors, les Juifs d'Algérie ont alors l'obligation de se déclarer comme Juifs. La mention Juif indigène est apposée sur leur carte d'identité. Ils ne peuvent plus être fonctionnaires de l'État. L'exercice de la plupart des professions leur est interdit. Des administrateurs sont nommés à la tête de leurs entreprises et de leurs biens. Un numerus clausus et limite le nombre des étudiants juifs dans les écoles, les lycées et les facultés.
Alors, je vais vous poser une question un peu plus personnelle, là, pour préciser les choses. Vous m'avez dit que vous travailliez à l'époque dans une entreprise.
Je travaillais dans une entreprise familiale.
Qui était touchée par ces mesures?
L'entreprise n'était pas elle-même touchée parce que mon père était un ancien combattant et un grand mutilé de la guerre de 14-18. Et à ce titre, les juifs citoyens français, les anciens combattants, plus exactement, n'étaient pas touchés.
Exemptés.
Ils étaient exemptés, si vous voulez, des lois raciales. Et, bon. On sentait que c'était une mesure provisoire. On sentait que les choses, à la façon dont les choses s'annonçaient, on sentait que c'était quelque chose qui avait été fait comme ça, dans un premier jet, mais que le tir pouvait être rectifié sur la pression des événements, la pression. Bon.
Et alors, est-ce qu'il y avait une crainte, comme j'ai cru comprendre de certaines personnes, que l'Afrique du Nord passe sous domination allemande?
Absolument. Il y a eu une crainte que l'Afrique du Nord passe sous la domination des Allemands. Et c'est pourquoi nous avons, si vous voulez, essayé de réagir de différentes façons, en prenant d'abord des contacts, en voyant les uns ont essayé de fuir, par exemple, de s'enfuir en rejoindre les forces françaises libres du général de Gaulle. D'autres ont essayé de se rejoindre, de se tendre la main, de voir un peu ce qu'il en était en Algérie et sur qui on pouvait compter exactement. J'ai moi-même fait une tentative d'évasion vers Gibraltar avec quelques amis, dont le fils du général Tuber et des élèves de l'école de navigation d'Alger. Et malheureusement, notre tentative a été vouée à l'échec et nous avons été arrêtés par l'inspecteur Beg, envoyé spécialement de Vichy pour cela, pour contrer les premières tentatives de résistance, on peut dire, ou de résistance active et passive même. Et c'est quelques semaines après cet incident, j'ai pu m'associer à un autre projet qui a été le début de la résistance organisée, on peut dire.
J'en conclus que votre entrevue avec ce commissaire ne s'était quand même pas mal terminée.
L'entrevue avec le commissaire ne s'était pas mal terminée, sauf que j'avais été menacé et retenu une nuit, et retenu une nuit, si vous voulez, au commissariat central.
D'accord.
D'Alger. Et finalement, j'ai reçu bien sûr des menaces et un avertissement sérieux. Mais sans autre chose, il n'y a eu aucune preuve. En réalité, c'était une intention. Et quelqu'un de notre petit groupe avait certainement parlé imprudemment et ses propos avaient été rapportés. Et ensuite, c'est comme ça que nous avons été inquiétés. Bon. Alors, je vous ai parlé de projets qui tentaient de se faire jour un peu de tous les côtés. Et début 41, deux amis nous demandent à nous parler, à mon père et à moi-même. Ils viennent nous voir au bureau de notre entreprise à rue Génine à Alger. Ce sont deux anciens camarades de l'ANICA, qui étaient officiellement dissous par le gouvernement de Vichy. Et ces deux amis sont André Temim et Émile Atlan. André Temim et Émile Atlan, ils nous font savoir qu'ils ont l'intention de créer une salle de sport, une salle de culture physique, et qu'avec deux amis, deux autres camarades, Jean Gozlan et Charles Bouchara, qu'on appelait Mickey à l'époque, ils disposaient de l'ancien local des auberges de la jeunesse Place du Gouvernement, et ils nous disent qu'il serait possible d'en faire une belle salle d'entraînement et pour la jeunesse. Et ils nous laissent quand même sous-entendre que cette salle pouvait servir de centre de rassemblement, de ralliement, pour tous ceux qui n'acceptaient pas la défaite, tous ceux aussi qui, de la communauté juive, pensaient qu'il valait mieux peut-être se battre le moment venu. Bien. Alors, nous avons accepté leur projet avec beaucoup d'enthousiasme, et mon père a proposé de prendre à sa charge tous les frais d'aménagement du local, parce que la salle Géogra à l'époque, elle occupait le premier étage d'un immeuble Place du Gouvernement à Alger, mais c'était un appartement qui était cloisonné, qui servait de dortoir, de chambre, quelque chose, aux anciennes auberges de jeunesse.
Alors, Louis, je vais vous demander une précision, oui, parce que c'était pas évident. Vous avez parlé d'auberge de jeunesse et après
oui,
de salle Géogra.
C'était l'ancien local des auberges de jeunesse dont André faisait partie et que je crois qu'il en était un des dirigeants à Alger. Alors, il a gardé ce local,
oui.
Et il l'a mis à notre disposition pour faire une salle de gymnastique. Seulement, il fallait l'aménager parce que c'était des chambres, c'était un immense appartement, si vous voulez. Il fallait donc abattre les cloisons qui pouvaient être abattues, faire des travaux de peinture, l'équiper, faire des vestiaires, douches, etc. Et mon père a proposé a offert, si vous voulez, comme contribution financière, a offert tous les travaux de remise en état de cette salle. Les autres camarades se sont aussi cotisés pour acheter ce qu'il nous fallait, un ring de boxe en particulier, les accessoires indispensables à une salle de gymnastique, et puis voilà.
Alors, excusez-moi, parce que ça ne sera pas... une précision s'impose ici. Pourquoi la salle Géogra?
Alors, la salle Géogra, il nous fallait trouver, si vous voulez, une couverture. J'ai une couverture entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire.
Oui, oui.
Une salle de sport qui aurait été dirigée par des juifs aurait été suspecte. À Vichy, elle aurait été aussitôt, elle aurait été dissoute ou elle aurait été, enfin, elle n'aurait pas pu exister. Alors, André Temim connaissait un ancien boxeur qui était moniteur d'éducation physique et qui était pompier auxiliaire en même temps. Vous voyez, il cumulait toutes ces activités. C'était Géogra, il s'appelait Géogra. Et alors, Géogra, sans se douter du but profond auquel était destinée la salle, a accepté de devenir le directeur de l'entraînement de la salle, en réalité le directeur technique de la salle, et la salle a pris son nom, salle Géogra. Voilà. C'est sous ce paravent que la salle Géogra a fonctionné sous le nom de Géogra, qui était d'ailleurs un brave homme, qui était un homme tout à fait, mais qui ne s'est jamais douté, ou presque jamais. Je dis bien presque parce que il avait bien quand même quelques soupçons à force de voir les va-et-vient qu'il y avait en dehors des cours et des cours normaux, des horaires de cours normaux.
Il a appris ensuite quand même.
Pardon ?
Ensuite il a appris.
Il a appris quand même par la suite. Oui, il a appris par la suite. Alors bon, c'était une salle qui était très vaste. Alors je le dis, bien aménagée avec un ring de boxe, des agrès, etc. La salle a été fréquentée par beaucoup d'athlètes connus. Elle a été fréquentée par Marcel Cerdan. qui est venu au cours des mois, qui est venu à Alger, par Roland Courreau, qui a boxé contre Marcel Cerdan, qui est venu s'entraîner sur notre ring à la salle Géograph. Moi-même, je m'entraînais avec Roland Courreau, qui était un camarade qui est mort à la suite d'un combat avec Marcel Cerdan, mais qui était un garçon absolument adorable et charmant. Il venait de France, et puis il était là, il s'entraînait à la salle Géograph. Il y avait aussi Albert Ayoun, je ne sais pas si on a entendu parler, qui était champion d'Algérie des poids lourds, boxe poids lourd. Et puis voilà. Et puis alors, par la suite, il y a une section d'escrime qui a été créée. Une section d'escrime dont j'ai eu la responsabilité, je dois dire, parce que j'étais en dehors de la boxe, j'ai fait aussi beaucoup d'escrime. Et on a pris un maître d'armes qui s'appelait Maître Gomis à l'époque, je me souviens, et qui était un excellent camarade depuis l'avant-guerre avec lequel j'avais pris des leçons d'escrime, qui m'avait appris vraiment à faire de l'escrime, qui était vraiment un homme charmant. Bon. Et donc, avec mon camarade Émile Bismuth, nous avons pris part même à des compétitions pendant la Révolution nationale. Et ça a même fait un scandale parce que au championnat d'Algérie d'escrime, le milieu de l'escrime est un milieu très antisémite, il faut le dire, très raciste à l'époque. Et nous avons disputé donc ces championnats sous vraiment dans une atmosphère, si vous voulez, de galerie tout à fait hostile, l'hostilité. Vraiment, c'était très désagréable. Enfin bref, voilà.
Oui, de sorte que la salle avait une activité sportive tout à fait normale.
Voilà. Maintenant, tout ce mouvement qui était apparent, c'est-à-dire les compétitions, la boxe, l'entraînement, etc., ça cachait en réalité nos activités, d'autres activités. Et parce que la salle Géograph, elle devint rapidement le lieu de rendez-vous de tous les gens qui, en réalité, n'acceptaient pas la défaite et qui se préparaient aux événements, qui venaient à la salle Géograph, en voyant la jeunesse. Ça a été un aimant pour la jeunesse résistante, juive résistante d'Alger. Mais on n'avait encore pas de but précis à ce moment-là. Si vous voulez, on ne savait pas très bien où diriger nos pas. Mais quand même, on a fait de la propagande gaulliste. Par exemple, la nuit, des équipes étaient désignées pour peindre les murs sur les murs de la ville, des inscriptions Vive de Gaulle, des V avec les croix de Lorraine, etc. Alors ces équipes. Et ces équipes étaient, si vous voulez, des gens de la salle Géograph, étaient vraiment des gens qui étaient sortis de la salle Géograph. Il faut que je vous dise que, une chose que j'ai oublié de vous dire, que la salle Géograph, en dehors de ses activités, oui, elle avait ses activités de résistance, mais comment les jeunes étaient recrutés?
Oui.
Comment les jeunes étaient recrutés? Je vais vous le dire. Au fur et à mesure que les jeunes se présentaient, et ils étaient fondés par le groupe de dirigeants de la salle. Le groupe dirigeant de la salle qui comprenait les amis dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Oui. C'est-à-dire Témine, Atlan.
On leur demandait exactement pourquoi ils venaient s'entraîner à la salle, etc. Et on leur faisait entendre que peut-être il y avait des la salle était destinée à autre chose. Et que tous ceux qui acceptaient, tous ceux qui étaient enthousiasmés par cette perspective et qui acceptaient de rejoindre la partie secrète de la salle Géograph, si vous voulez, était incorporée à des groupes de combat en formation. Parce que en réalité, à la salle Géograph, en dehors de son activité sportive, elle a organisé des groupes de combat. Et ces groupes de combat étaient composés de jeunes qui ont accepté de faire partie, si vous voulez, de ces groupes, et encadrés par beaucoup de sous-officiers ou d'officiers même qui avaient été mis à la porte de leur travail, de leur emploi par les lois de Vichy. On avait par exemple, on a eu des officiers juifs qui étaient bons camarades.
Les officiers d'active.
Les officiers d'active, c'est ça. Et même les officiers de réserve. On a eu attendez voir, je me souviens de... Oui, on a eu le lieutenant Roger Jalisse, qui était un ancien des forces françaises libres.
Ah oui, on parle de lui. Allez-y.
Oui, on a eu Roger Jalisse, on a eu Jean Dreyfus, qui a été tué aussi à la Grande Poste au moment de la chose. On a eu Fernand Frege, qui a été ensuite il a commandé, je crois, un régiment de parachutistes au moment des événements d'Algérie. Il était lieutenant-colonel à ce moment-là et qui a pris part, je crois, aux événements d'Algérie, hein, très activement aux côtés de
La guerre d'Algérie, vous voulez dire.
Au moment de la guerre d'Algérie, oui.
C'est ça.
Mais Fernand Frège, à l'époque, était un camarade qui était avec nous au Liban. Bon, recrutement donc de la salle Géogras, recrutement parmi les nouveaux adhérents, de gens qui acceptaient de venir dans le groupe, et organisation donc des groupes. Maintenant, alors, les activités pour maintenir le moral, qu'est-ce qu'on faisait pour maintenir le moral? Bon, ben on faisait des activités de propagande, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et indépendamment des activités de propagande, nous avons acheté, acquis des armes, de l'armement. On a acheté de l'armement auprès de contrebandiers par l'intermédiaire de notre camarade Émile Atlin, qui était un ancien armurier et qui n'avait plus le droit d'exercer son métier. On a acheté des pistolets, beaucoup de pistolets, des fusils de chasse, et on stockait tout ce matériel sous le ring de boxe de la salle Géogras.
Ah bon.
Sous le ring de boxe de la salle Géogras, dans les murs, dans les cloisons de la salle Géogras, tout le matériel assez volumineux, je parle de fusils de chasse, de carabines, etc.
Mais vous avez idée de la provenance de ces armes à l'époque? Du Maroc ou...
plus ou moins, c'était des armes qui venaient, semble-t-il, d'Espagne, des armes de contrebande d'Espagne, mais il n'y en avait pas énormément. On trouvait sur place des gens qui vendaient à des prix exorbitants, qui un fusil de chasse, qui un pistolet qui n'était pas ou déclaré ou autre. Et il y avait un petit trafic d'armes qui se faisait et duquel on a bénéficié en réalité, puisqu'on les a achetés, on s'est armé de cette manière-là. Bon, donc.
Mais alors, est-ce que vous appelez des groupes de combat auparavant étaient des groupes de combat, donc quelle activité? C'était des sports de défense ou bien?
On faisait beaucoup de boxe. On a fait beaucoup de boxe, on a fait beaucoup et surtout de l'entraînement, on sortait beaucoup dans les dimanches, les week-ends, on sortait beaucoup dans la salle Géogras, on allait dans la nature, sur les plages, on allait, et on faisait quand même pas mal de plein air, de marches, beaucoup de marches. Et le chef, en principe, les gens qui étaient dans un groupe ne connaissaient que leur chef de groupe. Je dis en principe parce qu'il y a eu quand même des interférences, et plus ou moins, on savait qu'un tel, bon, était plutôt plus sympathique, a été plus en sympathie avec un tel, et on s'est arrangé pour mettre les gens qui sympathisaient entre eux dans les groupes, dans leur groupe, un groupe avec lequel ils sympathisaient. Et en ce qui nous concerne, les quatre dirigeants de la salle, ou les cinq dirigeants de la salle, puisqu'on était cinq dirigeants, on s'occupait plus particulièrement, nous, des liaisons avec les deux amis qui nous ont rejoints après la formation de la salle Géogras, et qui étaient le docteur Raphaël Aboulker et son frère Stéphane Aboulker. Et petit à petit, ils nous ont beaucoup conseillés, et le docteur Aboulker avait été conseiller municipal. Là, il était le fils du professeur Charles Aboulker.
C'est ça, oui.
Le professeur Charles Aboulker, qui était très connu à Gilles, il y avait même une rue qui portait son nom. Et il nous conseillait, il dirigeait vers nous tous les jeunes qui étaient susceptibles de nous aider, qui voulaient continuer à se battre, etc.
Alors, ces deux personnages ont joué un rôle aussi très important. Et alors, eux, ils étaient en liaison avec des échelons.
Ils étaient en liaison. Alors, Stéphane et Raphaël étaient en liaison avec leur cousin José Aboulker. Et José Aboulker, il est venu, je crois, une fois à la salle de culture physique. Mais il était tout à fait en dehors. Il ne tenait pas du tout à ce qu'on le connaisse. Et les deux frères Stéphane et Raphaël, c'est eux qui assuraient la liaison, si vous voulez, avec cet état-major de la résistance. La résistance qui se dessinait déjà. Et voilà donc en réalité quelles ont été les activités. Il y a aussi quelque chose dont je voulais parler. Depuis le printemps 41, oui, on entendait parler des possibilités d'arrivée de troupes allemandes en AFN. Et cette éventualité qui avait été sérieusement étudiée par nos camarades et nous-mêmes nous a décidé à nous sortir d'Alger si dans le cas d'un débarquement allemand. C'est-à-dire que dans le cas où les Allemands auraient débarqué en Algérie, nous avions envisagé de créer, je dirais pas des maquis, on disait pas des maquis à l'époque, mais de sortir d'Alger avec quelques groupes et de, cette fois-ci, prendre les armes définitivement pour lutter dans le maquis, alors carrément. Et on avait pour ça, on avait loué Acrea. Je ne sais pas si vous avez connu.
Ah oui.
On avait connu Acrea.
Mon père a fait beaucoup de ski.
Il a fait beaucoup de ski là-bas. Bon, c'est ce secteur qu'on avait choisi pour créer une deuxième base de la salle Géographe. Et là, on avait loué un grand chalet. Et tous les camarades qui le pouvaient les week-ends de la salle Géograph venaient aller dans ce chalet, s'entraînaient, faisaient du ski bien sûr, mais surtout des marches en montagne. Et on a commencé à amener dans ce chalet, à amener du ravitaillement, des conserves, des couvertures, des conserves, un peu d'armement. On a commencé à monter de l'armement. Et on savait pas très bien si on allait l'utiliser ou non, mais enfin on l'utilisait comme, en somme, si vous voulez, comme annexe de la salle Géographe. Mais on l'avait fait dans cette intention. C'est pour vous dire que la salle Géographe, elle s'attendait un peu à toutes les éventualités, même à celle de prendre le maquis carrément. Mmh.
J'aimerais vous poser une question qui nous détourne un peu, si vous voulez, du cours historique, mais c'est pour essayer d'y voir clair. Vous avez dit que certaines équipes faisaient de la propagande gaulliste, etc., en dessinant des croix de Lorraine sur les murs. Mais j'en conclus que dans vos groupes, vous n'accordiez aucune importance à ce que l'idée que Weygand lui-même préparait la résistance aux Allemands.
Non, pour être honnête, non. Pas du tout, on était assez éloignés. Weygand, pour nous, c'était le pouvoir de Vichy.
Oui, je comprends.
En réalité, et il représentait plutôt l'ennemi à combattre à l'époque. Il n'a pas eu une attitude, comment dirais-je, catégorique ni ferme. Il a été, tout ce qu'il a fait, toutes les réglementations qui ont eu lieu à cette époque, elles ont eu lieu, et c'est lui qui les a prises. C'est sous son règne, en somme, si je puis dire.
Je me permets de vous poser cette question pour essayer de comprendre une époque que j'ai pas connue.
Allez-y.
Parce que, j'ai interrogé quelqu'un qui, lui, qui doit avoir sensiblement le même âge que vous, qui, lui, à cette époque, se trouvait dans les chantiers de jeunesse.
Oui.
Et qui, animé aussi, créé plus ou moins par, Weygand ou Abrial, enfin, peu importe,
oui.
Les chantiers de jeunesse. Mais il a l'air de dire que dans l'état d'esprit dans ces chantiers de jeunesse, c'était tout à fait anti-allemand, que les gens voyaient ça comme une...
Oui. En réalité, dans les chantiers de jeunesse, le chef des chantiers de jeunesse en Algérie,
Van Eyck,
était un des cinq qui ont participé à la direction, si vous voulez.
Ce que je veux savoir, c'est si vous, à l'époque, vous aviez le même sentiment ou si vous vous sentiez vraiment complètement exclu.
On se sentait un peu exclu, il faut le dire honnêtement, on se sentait exclu, on s'était un peu replié sur nous-mêmes. Et on n'avait plus tellement confiance. Et quand on avait pas tout à fait raison, parce que en réalité, on avait des amis quand même qui n'étaient pas des amis juifs et qui nous ont soutenus. Par exemple, on peut parler du commissaire Achiari, qui était le commissaire à la BST et qui a été un homme extraordinaire. On peut dire à ce moment-là, on peut dire que c'est lui qui a été le fédérateur de tous les groupes de résistance qui ont été créés, qui sont nés spontanément à cette époque. Parce qu'en même temps que la salle Géographe, José Aboulker a créé lui-même un petit groupe parmi les étudiants, ses amis étudiants qui étaient autour de lui. Il a fait contacter Jean Attias, un de ses adjoints. Il a fait contacter le docteur Il a fait contacter qui, par exemple? Il a fait contacter Maître Ayoun, c'est lui qui a été un peu l'initiateur du groupe Ayoun. Il y a eu le groupe Morali Daninos aussi, qui a été contacté en réalité par Jean Attias, donc par José Aboulker. Et José Aboulker a été, si vous voulez, le fédérateur de tous ces petits groupes.
Alors on dit que...
Alors, José Aboulker, oui. Mais alors...
On dit que Achiari connaissait toutes les activités d'Aboulker.
Il connaissait parfaitement les activités de la salle Géographe.
Et le laisse, oui.
Et si vous voulez, des camarades de la salle Géographe qui avaient été arrêtés par la police au moment où ils avaient peint des inscriptions sur les murs de la Légion des combattants, Vive de Gaulle, etc., ont été discrètement relâchés par notre camarade André Achiari. Donc, c'est pour ça que je vous dis, en réalité, les Juifs d'Alger avaient des amis, et avaient des amis résistants qui étaient franchement, qui les épaulaient.
Mais enfin, l'état d'esprit, quand même, j'imagine, à l'époque, c'était « il faut compter sur nous-mêmes ».
Il faut compter sur nous-mêmes. Mais nous, à la salle, si vous voulez, on était un peu repliés. Et ça, à tort ou à raison, je ne sais pas. C'était comme ça, en réalité. Et bon, alors, puisqu'on est à André Achiari, si vous voulez, il a été, en fait, notre protecteur. Et il a été un petit peu le fédérateur de la résistance en réalité, parce que c'est lui qui a parlé de nous, si vous voulez, au colonel Jousse, par exemple. Il était colonel à l'époque, le colonel Jousse qui est décédé d'ailleurs depuis il est décédé il y a un an, qui était le président de notre association actuellement, il y a un an encore, avant sa mort. Et le colonel Jousse à l'époque, puisqu'il était lieutenant-colonel, était major de garnison de la place d'Alger. Et il connaissait parfaitement l'existence de la salle Géogra par l'intermédiaire d'Achiari. Il savait parfaitement qu'il pouvait absolument compter sur la salle Géogra. Et je dirais vraiment que c'était le seul mouvement à la salle Géogra. Je ne veux pas faire de concurrence et faire de tort aux autres mouvements de résistance, mais le seul mouvement qui était structuré, qui était organisé, qui était armé, qui avait son propre armement et qui était entraîné et qui a présenté au moment du déclenchement des opérations des groupes formés, encadrés et armés. Et armés, parce qu'à l'époque, grâce au colonel Jousse dont nous parlions, on a touché comme armement des vieux fusils Lebel, vous savez, de la guerre de 1914, qu'on était bien content d'avoir, mais on avait aussi notre armement personnel. Donc. Ce qui fait qu'on était le groupe le mieux armé, on peut dire vraiment, de la chose, et le mieux structuré. Voilà, ça pour la salle Géogra, je devais faire cette petite
très
parenthèse.
Très bien, oui, mais très intéressant.
Parce que c'était vrai, hein, c'était vrai.
Et alors, on approche des événements décisifs.
Si vous voulez, quelques jours avant le débarquement, je reçois un de mes camarades du groupe de la direction de la salle, Émile Atlan, me dit « Paul, demain, tu prends ton arme personnelle, tu prends un casse-croûte, et nous partons en mission. » Je lui dis « Où nous allons ?» Il me dit « Je ne peux pas te dire, nous allons en mission. » J'ai su après que c'était un groupe qui était chargé de la protection pendant l'entrevue Cherchel. Vous savez qu'il y a eu une entrevue à Cherchel.
Oui, oui, oui. Bon,
on était chargé de cette protection-là avec un groupe de la salle Géogra. Et finalement, l'ordre a été annulé et ça n'a pas eu lieu. La rencontre a eu lieu, la rencontre historique a eu lieu, mais pas notre intervention, pas l'intervention du groupe de la salle Géogra.
Je crois que le général Clark devait venir par un sous-marin.
Il est venu.
Et vous auriez été le groupe de protection.
De protection, c'est ça. Tout ça, voilà. Mm-hmm. C'était ça. Un des groupes de la salle Géogra. Une dizaine d'hommes environ. Bon, alors, j'en arrive tout de suite, c'est pas la peine de traîner sur l'activité de la salle. Bon, j'en ai parlé. À la veille, le 7 novembre, au matin, je reçois un coup de téléphone de mon camarade, il était 6h du matin, je reçois un coup de téléphone de mon camarade Émile Atlan, qui me dit « Paul, c'est pour ce soir ». Viens le plus vite possible me rejoindre. Je vais le rejoindre à son domicile. Il me dit, il faut absolument rassembler les chefs de groupe, les prévenir, rassembler leurs hommes, et les affectations seront indiquées à la salle vers midi. Les affectations des chefs de groupe.
Alors ces groupes avaient des numéros, des chiffres.
Non, c'était des groupes de combat de 4 personnes et avec un chef de groupe, mais on devait faire la répartition des gens dans les objectifs qui nous avaient été désignés, parce que en réalité, la salle Géogra elle a eu comme objectif 3 grands objectifs pendant le choix. C'était le groupe B. Si vous voulez, ça a été le groupe, enfin, je vais vous le donner en
chose. Non, je dis ça parce que quand j'ai interrogé le fils de Morali Daniel, c'est pas de groupe A.
Alors, ça a été le groupe B. Le groupe B, il comprenait en totalité 132 hommes. Son commandant, c'était le docteur Raphaël Aboulker, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mon camarade Raphaël. Et c'était 132 hommes, presque exclusivement, tous appartenant à la salle Géogra, bien entendu. Le nombre de défections a été insignifiant, et c'était le groupe le mieux structuré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, ont été joints à ce groupe 12 volontaires du groupe de Mario Fèvre. Le jour de l'action. Vous avez entendu parler de Marmont Fer, peut-être? Bon. Alors, ces 12 volontaires ont été joints au groupe de combat du groupe B. Donc, alors, midi, rendez-vous. Donc, je reviens chez Émile Atlan. Mmh. Rassemblement le soir chez lui. À son domicile. Parce que le groupe auquel j'ai appartenu, c'est celui qui a pris la préfecture.
Oui, car votre objectif, c'était la préfecture, donc.
Alors, notre objectif, c'est ça. Le groupe auquel j'ai appartenu avait comme objectif la préfecture. Mais il faut vous dire que le groupe B, l'ensemble du groupe B, oui, qui était scindé en trois groupes, section B1, section B2 et section B3, elle était composée de tous les volontaires de la salle de yoga dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et les objectifs étaient, pour la section B1, l'état-major du 19e corps d'armée, où logeait le général Kölz, qui commandait le corps d'armée, et qui a eu comme chef de section le capitaine Pilafort. Je dois vous dire que le capitaine Pilafort était un ami de Raphaël Aboulker. Et c'est le docteur Raphaël Aboulker qui l'a présenté à José Aboulker. Mais pour des raisons que je ne veux pas, dans lesquelles je ne veux pas entrer actuellement, Pilafort a été un petit peu écarté pendant la résistance. Non pas parce qu'il manquait de bravoure, c'est un homme extrême, d'une bravoure extrême, c'est l'homme. Mais je crois qu'il n'était pas suffisamment discret. C'est ça qu'on lui reprochait.
C'est ça.
Non, et il a été un petit peu écarté pendant la préparation de l'action. Il n'empêche que pendant l'action, on comptait absolument sur lui pour... c'était un officier de carrière, un officier qui connaissait absolument son métier.
Et il a participé, d'ailleurs.
Et qui a participé, c'est lui qui a pris le commandement donc de la section B1. Celle qui était... qui avait comme objectif le 19e corps d'armée. Alors, il avait comme adjoint le lieutenant Jaïs, qui était un lieutenant d'un des officiers dont je vous ai parlé de la salle Géograd, Germain Libine, que vous avez peut-être entendu parler, qui était un ancien boxeur et qui est devenu par la suite le garde du corps du général de Gaulle, avec le grade de lieutenant, je crois, et qui était resté très longtemps garde du corps du général de Gaulle. Il y a eu Mario Fer aussi qui faisait partie de ses adjoints.
Il y avait histoire d'un groupe de Bretons aussi.
Oui, le groupe de Bretons, il n'était pas dans le groupe B, si vous voulez.
Ah d'accord. Complètement extérieur.
Il était complètement extérieur. Le groupe, je vous en parlerai si vous voulez après. Oui, après. Le groupe des Bretons de Tilly. Bon, alors pour en revenir, donc l'objectif, il comprenait ce groupe B1, 58 volontaires. Vous avez su la prise du corps d'armée, vous avez su comment elle a été effectuée. J'en parlerai pas puisque j'y ai pas participé. Enfin, je l'ai appris par les camarades.
Alors vous étiez dans le groupe B. Hein.
Moi j'étais dans le groupe B2. Alors le deuxième groupe du groupe B, donc c'était la section B2. Son objectif était la préfecture d'Alger. Mmh. Le préfet à l'époque était Emmanuel Temple. Et notre chef de section était un officier, un sous-lieutenant qui s'appelait Jacques Zermati, qui avait comme adjoint nos camarades Sadia Walid et André Lévy, qui actuellement qui a été pendant longtemps le secrétaire général de l'association. Et qui
Zermati était de Sétif, non?
Non, Jacques Zermati n'était pas du tout de Sétif. Ah, non, je crois qu'ils étaient une famille qui était plutôt repliée en France, je crois, et qui était c'était un cousin, ou c'était un parent de José Aboulker. Enfin, c'est lui qui a pris le commandement du groupe. Alors, je peux vous en parler parce que là j'y étais. On nous a transporté du domicile. Il y avait 27 volontaires, hein, je dois dire, pour le groupe de la préfecture. Nous avons été transportés en camion depuis le point de rassemblement du groupe, qui était au domicile d'Émile Atlan. Il était 1h du matin. Un camion est venu nous prendre là. Nous attendions depuis. Le rassemblement avait lieu à 9h du soir, donc. Et le groupe était assez nerveux. La femme de notre camarade Émile Atlan nous avait préparé des assiettes anglaises, etc., pour dîner, etc. Mais le groupe était assez nerveux. On savait pas très bien où on allait. On pensait aller vraiment au combat, on avait que nos armes individuelles, donc c'était quand même pas un armement extraordinaire.
C'était sommaire,
c'était des pistolets, c'était des fusils de chasse, c'était des revolvers. Encore les fusils de chasse, on les avait pas amenés, on avait amené seulement les revolvers, on avait demandé d'amener seulement les pistolets automatiques ou revolvers, l'armement individuel de chacun. Donc on était un petit peu anxieux, il faut le dire, parce que c'était quand même une aventure.
Il y avait de quoi.
Donc, à 1h du matin, le camion qui devait nous prendre est venu nous prendre, minuit et demi, 1h du matin, est venu nous prendre en bas chez Émile Atlan, un camion, nous amène devant la préfecture. Dans le camion, nous avons trouvé les fusils Lebel dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous avons trouvé les Lebel, les munitions qu'on nous a distribuées, et nous sommes descendus devant la préfecture. Il y avait une garde d'agents de police, les agents de police. Et nous avions, en même temps que les rebelles, on nous avait distribué des brassards. Des brassards VP, volontaires de place. Ces brassards étaient destinés, en cas d'alerte comme celle qui allait avoir lieu, à tous les SOL et tous les membres des groupements vichistes, si vous voulez, qui devaient appuyer la défense de l'armée officielle, quoi, de l'armée de Vichy, qui était là-bas. Donc, grâce au général Joust, toujours, qui était notre grand chef, finalement, c'est lui qui patronnait le tout, nous avons donc obtenu et les armes, et les brassards dont je vous ai parlé, et les chefs de groupe, les ordres de mission, parce que c'est une opération qui devait s'effectuer sans effusion de sang, qui devait s'effectuer seulement le plus possible. On a reçu comme consigne de n'utiliser les armes que vraiment si on était en état de légitime défense, et vraiment que uniquement dans ce cas-là, et surtout pas utiliser l'armement qu'on avait touché. Donc on se présente. Alors donc le général Joust nous avait fourni tous ces documents. Nous nous présentons, donc le camion arrive devant la préfecture. Notre chef de groupe, Jacques Zermati, se présente au poste de garde de la police, c'était la police municipale, la police nationale, qui est des agents de police, un groupe d'agents de police, avec l'ordre de mission d'avoir à nous céder la garde de la préfecture.
Alors, excusez-moi, petite question qui est un détail, mais peut-être pas. C'est la préfecture, c'est l'ancienne préfecture.
C'est l'ancienne préfecture qui se trouvait à côté du casino Aletti, de l'hôtel Aletti.
C'est ça.
Vous voyez, oui. L'hôtel Aletti, bon, bah, c'était cette préfecture qui se trouvait là. Et donc, nous nous présentons là. Les agents de police cèdent la place. Nous entrons dans la préfecture, bien entendu. La première chose qu'on fait, Zermati, c'est de poster des gardes à chaque porte de la préfecture. Une garde de deux ou trois hommes. Ensuite, nous montons dans les appartements du préfet. Nous réveillons le préfet, qui était Monsieur Emmanuel Temple à l'époque. On lui a demandé de s'habiller. Il nous a dit qu'est-ce qui arrive. Il était affolé de voir un groupe d'hommes armés pénétrer. Il était dans sa chambre à coucher avec son épouse.
Enfin, vous avez pris la préfecture sans aucune difficulté.
On est rentré comme ça, avec cet ordre de mission. Un faux ordre de mission, c'est un ordre de mission, bien sûr.
En définitive, cette opération, mais pas seulement la vôtre, mais l'ensemble... donne l'impression d'avoir été très bien organisée.
Très bien organisée, elle était très bien organisée. Elle a surtout nécessité l'appui, il faut bien le dire, des militaires résistants et comme notre ancien président et on peut dire respectueusement camarade Joust, qui a été la cheville ouvrière, on peut dire, au moment de l'action. C'est lui qui a, José Aboulker, a suivi la directive du colonel Joust, et tout s'est passé comme Joust a demandé. Mais en réalité, l'action elle-même a été dirigée par José Aboulker. Depuis le commissariat central d'Alger, il a fait comme nous, il a fait un ordre de mission, il a relevé les agents de police qui étaient des choses, ils ont coffré tous les agents de police vichistes dans les geôles du commissariat central, et ils ont rallié à eux une grande partie des agents de police du choix. Mais là, nous nous égarons, on sort du groupe B, si vous voulez, un petit peu. Mais pour en venir au groupe B, je vous signale un petit incident qui s'est produit à la préfecture. Après que nous ayons fait prisonnier le préfet, son épouse, on leur a demandé de se rhabiller. Il nous a dit qu'est-ce qui se passe. Il nous a dit voilà, c'est terminé, le règne du maréchal Pétain est fini, les alliés débarquent en Algérie, vous êtes notre prisonnier. Ah, mais j'ai toujours élu. Il a protesté de son patriotisme, il a dit qu'il était...
Donc ça, vous étiez là, ça s'est passé.
Oui, j'ai accompagné le groupe qui est monté, réveiller le préfet. Je le revois, comme je vous dis, je le revois comme aujourd'hui, dans sa chambre, en chemise de nuit avec son épouse. Ensuite, pendant ce temps-là, d'autres groupes, parce qu'il y a plusieurs appartements dans la préfecture, il y avait le secrétaire général de la préfecture qui avait son appartement là-bas, et beaucoup du personnel de la préfecture. Alors nous avons demandé à tout ce personnel de se rhabiller, nous avons rassemblé tout ça dans une salle commune, tout ce personnel dans une salle commune, sauf le préfet bien sûr qui est resté dans ses appartements, dans une salle commune en bas à la préfecture, au deuxième étage je crois de la préfecture, et nous leur avons demandé de ne pas tenter de quoi que ce soit, que nous étions là armés et que toute tentative serait vouée à l'échec de leur part, mais enfin sans avoir à leur égard aucune attitude hostile ou quoi que ce soit. Bon, les gens on a discuté, on a bavardé avec eux, on leur a expliqué que les alliés devaient débarquer cette nuit et qu'on attendait incessamment, etc. Bon. Et au petit matin, on a décidé de poster des gardes à l'extérieur de la porte qui donnait sur l'extérieur de la préfecture, et moi j'ai été mis de garde à la porte de la préfecture vers 2 heures du matin.
à peu près 2h, 2h30 du matin. Et là, je vois les premiers coups de feu, les premiers coups de canon ont commencé à éclater très proches, puisqu'il s'agissait d'un échange de coups de feu. Ces premiers coups de feu, les premiers coups de canon ont éclaté, c'était un échange de coups de feu entre l'amirauté et entre un destroyer britannique qui essayait de forcer la passe de du port, qui était barré par des chaînes. Et à ce moment-là, donc, je vous dis, j'étais de garde donc à la porte de la préfecture, à la grande porte de la préfecture qui donnait sur la rue de Constantine, autant que je me souviens, c'était la rue de Constantine, et je vois un monsieur qui s'approche de moi et qui me dit « Je suis le commandant Breleux, je veux parler, je suis le commandant, il était le commandant de la Légion des combattants à l'époque, et je souhaite parler au préfet. » Breleux, on connaissait le commandant Breleux de nom, je l'avais jamais vu, mais j'étais là avec mon arme à la main, de voir ce commandant qui venait mettre ses troupes à la disposition du préfet, ça m'a plutôt fait un choc. J'ai dit, bon, mais bien sûr, monsieur, vous allez entrer tout de suite, et je frappe à la porte, des camarades qui étaient de garde à l'intérieur de la porte, ouvrent la porte et me disent, je dis, tenez, voilà, vous avez le commandant Breleux qui vient mettre les troupes, les légionnaires à la disposition de la préfecture, comme prévu en cas d'alerte, etc. Ça s'est passé, bien sûr, après les échanges de coups de feu dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà,
vous l'avez fait prisonnier.
Une demi-heure. Alors, on l'a fait prisonnier, on lui a demandé de s'asseoir, de rentrer, de s'asseoir. On lui a dit oui, mais enfin, c'est terminé, maintenant, c'est fini, il n'y a plus de légion, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela. Enfin, bref.
Et quelle fut sa réaction?
Et il a été, mais comment? Il a essayé de le prendre d'un peu haut, mais enfin, il a compris qu'il n'y avait rien à faire. Il était entouré par des hommes qui le gardaient, et finalement, ça n'a pas lieu. On a prévenu le PC le PC du commissariat central que nous venions de faire cette prise. On nous a dit gardez-le, on va venir le chercher. Bon. Le troisième objectif du groupe B3, du groupe B, c'était la section B3. L'objectif a été la grande poste. Le chef de section était le lieutenant Dreyfus, qui était un garçon de la salle Géographe, et qui avait comme chef de section adjoint Jean Gosselin, notre camarade Jean Gosselin. Il avait un effectif de 12 volontaires. Alors, l'occupation du central de la poste et du central téléphonique s'est effectuée sans problème, mais vous savez ce qui s'est passé le lendemain matin, un adjudant qui est venu du 5e chasseur est venu avec son unité, enfin l'unité du 5e chasseur est venue encercler la poste, assommer les gens de la résistance qui étaient à l'intérieur de se rendre. Jean Dreyfus est sorti pour parlementer, discuter avec eux, et il a été abattu par un adjudant à ce moment-là. Bon. Voilà, si vous voulez, en gros, l'action du groupe B. Le groupe B4, oui, c'était le poste émetteur de Radio Alger. C'était l'adjudant Tilly qui l'a occupé.
C'est breton.
Et c'est breton. Qui a été joint au groupe B, au moment de l'action.
Et là, ça s'est bien passé.
Et là, ça s'est très bien passé, puisqu'ils ont pris Radio Alger. Et le lendemain matin, notre camarade Stéphane Aboulker c'est Raphaël qui a fait l'appel, si vous voulez, qu'aurait dû faire le général Giraud, qui n'était encore pas arrivé. Parce qu'en réalité, c'est le général Giraud qui devait prendre la tête du mouvement. Il est arrivé en retard à cause de pourparlers, plus ou moins alambiqués avec les alliés.
Oui, justement, comment ça s'articulait, votre action avec l'extérieur? Parce que vous saviez qu'il allait y avoir un débarquement.
Alors, on l'a su seulement au moment où notre camarade Émile Atlin m'a dit « c'est pour ce soir ». Je l'ai su à ce moment-là. Ça, mais je ne savais absolument pas à quel genre d'action nous étions destinés. Ah, absolument pas.
Vraiment à la toute dernière minute.
C'est seulement à la toute dernière minute que nous avons su et nous avons appris, qu'on nous a dit.
Et à cette époque-là, aviez-vous entendu? Non, j'imagine que non. Vous ne saviez pas qu'il existait un groupe des cinq et tout ça. Vous l'avez
pas dit? Non, je ne le savais pas. Nous voyons de notre groupe, nous voyons que les camarades qui étaient de la direction de la salle, que nous voyons tous les jours, tous les soirs, bien entendu, quelquefois la nuit, au moment où nous faisions ces actions de propagande gaulliste aussi. Mais je ne savais absolument. Seulement les quelques camarades dont je vous ai parlé tout à l'heure connaissaient Stéphane et Raphaël Aboulker. C'est ça. C'est-à-dire qu'on allait chez eux, on allait très souvent chez eux, on discutait, on bavardait, si vous voulez. On se réunissait le soir pour parler un petit peu de la situation, faire un petit peu le point où nous en étions à la salle, l'entraînement, etc., etc. Et puis, ils nous mettaient au courant un petit peu de ce qui se passait.
Oui, parce que de toute façon.
La liaison se faisait par leur intermédiaire.
Des groupes de résistance, forcément, c'est cloisonné.
C'est cloisonné. Et nous ignorions vraiment absolument tout. Et quand, ensuite, au moins, après, c'est après l'action qu'on a vu que, bon, on savait qu'on était en liaison, parce qu'à la préfecture, on était reliés directement avec le centre. Vous savez qu'on a coupé au moment de l'action, on a coupé toutes les communications téléphoniques. Vous savez ce qui s'est passé pendant l'action. Surtout ceux qui ont occupé le 19e corps d'armée, il faut le dire, c'est eux qui ont fait le travail, à mon avis, le plus important cette nuit-là, puisque ils avaient le général Kölz qui commandait la division d'Alger, qui était leur prisonnier. Qui commandait le corps d'armée, pas la division d'Alger, mais qui a fortiori la division aussi. Et les ordres partaient, c'était des ordres de repli qui étaient donnés aux unités qui signalaient les débarquements alliés, c'était des ordres de repli qui étaient donnés aux troupes qui étaient sur les plages, qui surveillaient les plages, etc. Mmh. Donc, si vous voulez, les Américains ont pu débarquer et mettre pied à terre autour d'Alger. Je dirais l'arme à la bretelle, si on peut dire, parce qu'il y a eu mauvaise mer, ils ont eu des déboires, en particulier à la pointe Pescade et tout ça. Mais en réalité, ils ont débarqué, on peut le dire, sans coup férir. Ça n'a pas été le cas à Oran.
Oui. Cependant, est-ce qu'ils n'étaient pas en retard?
Ils étaient très en retard. Alors, ils avançaient très prudemment. Ils avaient une confiance très limitée dans l'action de la résistance. Je ne sais pas s'ils le savaient que la ville était entre nos mains, mais au moment où ils ont débarqué, ils n'ont pas trouvé, ne trouvant pas de résistance, ils ont été extrêmement méfiants. Ils ont fait un petit peu comme avaient fait les troupes françaises en 1830 au débarquement. Ils ont débarqué du côté de Staweli, Pointe Pescadée. Ils ont encerclé la ville par la terre. Au lieu de après l'échec du débat, ils ont fait une tentative, il faut dire, à 3-4 heures du matin. Et devant l'échec de ça, parce que la tentative a échoué devant les canons de l'Amirauté, il faut dire que
oui, ce que vous avez dit tout à l'heure.
L'Amirauté était le seul point où l'action de la résistance a échoué. Ça a été un échec. Nos camarades de la résistance, ils faisaient partie du groupe Morali d'Aninos, je pense. Tous les gens, je crois que c'était le groupe Morali d'Aninos.
Morali d'Aninos, je crois qu'on m'avait parlé du commissariat de la Basse Casbah.
Ah non, le commissaire de la Basse Casbah, c'était pas lui, non. Morali d'Aninos, le groupe Morali d'Aninos, il avait, je vais vous dire, la caserne Pélissier. Voilà, oui, c'est ça, c'est la caserne Pélissier. Mmh. Vous aviez l'Amirauté, qu'est-ce qui était l'Amirauté?
Est-il que ça s'est mal passé?
À l'Amirauté, ça s'est mal passé. Oui, oui. Ça a été le seul, la section qui a subi le plus grave échec de l'opération.
Alors, quelles conséquences a eu le retard des Américains?
C'était le groupe Morali d'Aninos. C'était le groupe Morali d'Aninos, effectivement. Et le commandant de la section A3, c'était André Cohen. Et comme adjoint, Lucien Loufrani, qui était son adjoint.
Alors, ils ont été arrêtés.
Oui, absolument. Ils ont été mis en cellule, ils ont été arrêtés par les marins de l'Amirauté. Donc, ça a été un échec. Et l'Amirauté, c'est comme ça que l'Amirauté a réagi. Ils avaient des pièces d'artillerie de 75 mm qui a ouvert le feu sur les bateaux alliés qui ont essayé de pénétrer dans le port d'Alger. Et c'est vraiment le seul combat, qu'on peut dire, qui a eu lieu à Alger au moment du débarquement. À Oran, par contre, ça s'est pas passé de la même manière. Enfin, vous connaissez l'histoire d'Oran. Oui. Il y a eu des combats qui ont duré 4-5 jours, je crois, là-bas. Il y a des pertes assez sévères, aussi bien du côté américain que du côté...
Quand les Américains sont entrés dans Alger, vous teniez toujours
la... Alors, on tenait toujours la préfecture. Alors, comment s'est passée l'évacuation de la préfecture, puisqu'on en parle? Vers 7h30, 8h du matin, on voyait, le jour était levé, et par les fenêtres de la préfecture qui donnait sur la mer, vous voyez la préfecture, il y a des fenêtres qui donnaient sur la mer, et sur le port, on voyait l'immense armada alliée qui était là et qui se déployait devant nous. C'était vraiment quelque chose d'extrêmement impressionnant de voir ça. Et quand on a vu ça, on a repris courage, on a dit ça y est, c'est dans le sac, on peut pas avoir une armada pareille sans que ça suive derrière, et surtout qu'il y avait pratiquement aucune riposte de la part des troupes françaises, puisqu'elles étaient sous notre contrôle en réalité à ce moment-là. Enfin, sous notre contrôle, disons, pas contrôle direct, mais si vous voulez, sous notre contrôle à l'échelon très supérieur.
Vous aviez neutralisé déjà.
On avait neutralisé pas mal de choses. Alors, donc, pour en revenir à la préfecture, vers 9-10 heures du matin, nous avons vu venir à nous des cars de garde mobile, ça s'appelle ça, des gendarmes, la gendarmerie mobile, et qui ont encerclé la préfecture. ils ont encerclé la préfecture d'assez loin, sur de la rampe, depuis la rampe Bugeaud, qui dominait la préfecture, je ne sais pas si vous vous rendez compte.
Très bien.
Ils plongeaient directement sur la préfecture, côté Aléti, côté boulevard, tout ça était encerclé par le cordon très important de garde mobile. Et un colonel de la garde mobile se présente à la porte de la préfecture et demande à parler au préfet. Alors on lui dit qu'on ne pourrait l'autoriser à rentrer que s'il rentrait sans armes, sans aucune arme, et que de toute façon la famille préfectorale était en très bonne santé, qu'on le autorisera à voir la famille préfectorale seulement s'il acceptait nos conditions. Alors il a accepté et il a pénétré donc dans la préfecture et il s'est entretenu avec le préfet. Il nous a demandé l'autorisation de parler au préfet seul. On l'a laissé donc seul avec le préfet, il n'y avait aucun problème. Et en sortant de là, il nous dit voilà, je vous somme de vous rendre et de déposer vos armes et de vous rendre. Alors on lui a dit non, il n'est pas question que nous rendions. Nous avons demandé des instructions, il faut dire au commissariat central. Et José nous a dit tenez le maximum. L'affaire est dans le sac, enfin c'est maintenant les alliés sont là, mais tenez le maximum pour leur permettre de venir sans coup férir dans la ville. Alors on a dit non, nous ne nous rendrons pas, il n'est pas question que nous rendions nos armes, il n'est pas question que nous avons comme otage non seulement la famille du préfet, mais aussi tout le personnel de la préfecture, et par conséquent nous ne nous rendrons pas. Ce sont nos otages et nous rendrons. Il n'est pas question que nous rendions. Alors le colonel s'est retiré. Un petit moment après, il est resté, il a rejoint ses troupes, et un petit moment après, il revient, avec, accompagné d'un de ses adjoints, un commandant, normalement, de garde mobile, et il nous dit, voilà, j'accepte que vous évacuez la préfecture avec votre armement, et si vous nous promettez qu'il sera fait aucun mal à la famille du préfet et à tout le personnel, on a dit, mais il n'a jamais été notre intention de faire le moindre mal, on accepte votre ultimatum, il a dit parce que sans ça j'attaque. Alors on lui a dit, bon, écoutez, on accepte votre ultimatum, mais à la condition que la garde mobile se retire à 200 et 300 mètres de là, pour permettre à nos voitures de venir récupérer nos hommes et leur armement. Enfin, les pourparlers, on avait duré un petit peu, on a fait traîner un petit peu les pourparlers. Et c'est comme ça que vers midi, des voitures de camarades sont venues nous prendre. Et groupe après groupe, nous avons embarqué dans ces voitures avec notre armement et avec. Et nous avons évacué.
Vous êtes replié où alors?
On s'est replié sur la salle géographe.
Ah oui.
Oui, on s'est replié sur la salle géographe. On a déposé, on a laissé nos armes dans les fusils, les Lebel, pas notre armement personnel. Et on s'est replié pas la salle géographe parce que on avait reçu cette instruction de nous replier mais de rester groupés.
Les Américains n'étaient toujours pas.
Les Américains n'étaient pas toujours manifestés dans la ville, en réalité, ils étaient autour de la ville, ils encerclaient, ils étaient à Chiraga, ils étaient, vous voyez, tout autour de la ville. La ville était encerclée, pas par une troupe nombreuse, mais enfin par l'effectif de, je sais pas moi, un régiment et demi de régiments, je pense à peu près. Quoi, vous voyez, c'était donc pas énorme.
Non.
Et nous sommes repliés donc à la salle géographe, et on nous a demandé. Alors on nous a dit bon, on va se reposer un petit peu parce qu'on n'avait pas dormi bien sûr de toute la nuit. Mmh. On va se reposer, on va manger un petit peu. C'est ce qu'on a fait. On a mangé un peu, on s'est reposé et on nous a dit bon, l'après-midi nous allons avoir des missions de liaison avec les Américains pour les guider dans la ville. Et au moment où nous apprêtions à accomplir cette mission, un contrôle est arrivé qui nous a dit non, rassemblement au commissariat central. Et allez-y par petits groupes de deux ou trois, parce que la résistance continue au commissariat central. Nous empêchons les troupes du 5e chasseur, c'est-à-dire les troupes de Vichy, de se rendre à leur poste de combat, leur emplacement de combat, pour combattre les Américains qui étaient autour d'Alger. Parce que la résistance avait été organisée par Darlan et Juin, il faut dire. Juin qui était sous les ordres de Darlan, en réalité. Et donc la résistance, on peut dire, la contre-résistance au débarquement s'organisait en chose. Alors, on a donc reçu cet ordre. Moi, je me suis rendu avec un camarade au commissariat central qui résistait encore et qui arrêtait systématiquement toutes les voitures militaires et tout ce qui arrivait comme convoi, qui était arrêté par le capitaine Pilafort, notre ami Pilafort, qui était là-bas avec André Temim, avec José Aboulker et quelques camarades qui étaient déjà là avant nous. Et José Aboulker n'avait pas quitté son poste puisque c'était son PC. Il y avait déjà des voitures qui étaient, je me souviens très bien, je revois encore le tableau, il y avait une voiture, un camion militaire, les camions militaires, c'est pareil, étaient munis de canons de 75 qui étaient montés sur l'arrière des camions. Mmh. Et je revois toujours ce camion de 75, avec son canon de 75, sur le trottoir devant le commissariat central d'Alger, et je revois Pilafort arrêtant les voitures des militaires qui passaient, et toutes les voitures des militaires qui venaient depuis le champ de manœuvre et qui se dirigeaient vers les points de contact avec les troupes, avec les alliés, pour les combattre. Et j'ai assisté, mais pas, j'étais pas tout près de Pilafort, au moment où Pilafort a été tué, nous avons entendu la fusillade qui a eu lieu au moment où Pilafort a été tué. Et ça, Il a été blessé, il a reçu une balle dans le ventre, il a été transporté, il a été soigné par Aboulker, José Aboulker, dans l'immédiat, et puis il a été transporté à la clinique Solal, je crois, c'était à l'époque. Et voilà en gros comment s'il vous plaît.
Et que ça s'est terminé comment alors, commissariat central?
Alors, commissariat central on a fini par évacuer les lieux, mais c'était, si vous voulez, tard dans la soirée, après la mort de Pilafort, et les alliés commençaient déjà à faire leur apparition dans les rues d'Alger, à ce moment-là. Les troupes américaines et anglaises, d'ailleurs.
Oui, j'ai envie de vous poser une question. Et vous-même, madame, vous avez vécu, vous connaissez votre mari, déjà?
Ah, oui, c'est mon ami d'enfance.
Oui.
Moi, j'étais plus jeune, je n'ai donc pas participé, mais enfin, j'ai vécu, j'ai été victime des martiales, j'ai été renvoyée du lycée.
Quel lycée vous étiez?
Au lycée de jeunes filles, la rue Bisley. Mm-hmm. Et j'ai été renvoyée du lycée le jour de mon anniversaire. Et j'ai vécu le débarquement en tant que civile.
Vous avez entendu parler de ces activités de...
Non,
pas du tout,
mais le soir, quelqu'un dans notre entourage, nous devions aller au cinéma, et quelqu'un dans notre entourage nous a dit, bien non, ce soir, il vaut mieux que vous restiez chez vous. Donc, je ne vais pas vous dire pourquoi, mais restez chez vous. Alors, nous sommes restés un petit peu, en y croyant à moitié.
Okay.
Jusqu'au moment où nous avons entendu les premiers coups de canon, donc qui étaient les coups de canon de l'amirauté, et on a compris que quelque chose se passait, on a attendu, et je me souviendrai toujours de ce spectacle absolument merveilleux pour nous, du lendemain matin, la flotte, l'armada alliée avec les saucisses de protection dans le port.
Mais je peux poser une question, alors plutôt pour l'après-guerre, là.
L'après-débarquement.
Oui, non, mais l'après-guerre.
À l'après-guerre.
Non, vous êtes resté à Alger jusqu'en...
Moi, je suis resté à Alger jusqu'à la veille de l'indépendance.
Ah, oui.
On est parti, on a quitté Alger vraiment parmi le dernier bastion. C'était.
Mais est-ce qu'on peut dire que les gens qui ont participé à ces événements, qui étaient gaullistes à l'époque, comment ils ont vécu alors ensuite le gaullisme?
Ça a été le drame parce que on s'est considéré comme trahi par De Gaulle. Bien sûr que il faut le dire, la majorité des résistants si vous voulez, était devenue Algérie française. Il faut dire les choses comme elles sont. Je ne sais pas si vous avez vécu période, mais la majorité des gens étaient Algérie française, il faut le dire. Et beaucoup de nos camarades, d'ailleurs André Temim lui-même, beaucoup de nos camarades ont milité.
Mais devait être un peu déchiré, non?
Bien sûr, déchiré, parce que on considérait l'attitude de De Gaulle comme une trahison, si vous voulez. Et puis finalement. Tout ça s'est apaisé, bien sûr, par la suite, quand on a été rapatrié, et on a compris que c'était fini, qu'il ne fallait pas tellement...
Il y a une question aussi que je voudrais vous poser, parce que ce n'est pas clair dans mon esprit. Est-ce que, de la part du FLN, pendant la guerre d'Algérie, est-ce qu'il est arrivé que les gens du 8 novembre 1942 soient particulièrement visés, ou des choses comme ça? Parce que j'ai entendu dire par Jean Guenassia qu'il y avait quelqu'un hein, qui l'avait connu dans ces circonstances, qui avait été descendu par le FLN, mais c'était pas que...
Ah oui, on a eu un camarade, effectivement. On a eu un camarade, mon camarade Émile Atlan, qui a été tué par le FLN. Il a été abattu d'une balle dans la tête, et au moment où il fermait son magasin. Mais enfin...
Mais était-ce un attentat aveugle, ou bien il était visé en tant que personnalité?
Il était visé, à mon avis, en tant qu'Européen. Il avait son magasin, je vous dis, il avait son magasin, Place de Chartres, à Alger.
Ouais.
Or, les Arabes, à ce moment-là, le FLN, faisait le vide, si vous voulez, tout ce qui était population européenne, juive ou non-juive, bien sûr, dans ces quartiers-là. Et ils abattaient systématiquement tous les Européens qui étaient à l'EFLN. Et c'est comme ça qu'Émile Atlan reçut une balle dans la tête. C'était un homme d'un courage extrême, c'était un homme extrêmement courageux, Émile Atlantivore. Il est resté accroché à sa place de charge vraiment jusqu'à sa mort, on peut dire. Il a eu le courage de rester là et de résister là, malgré tout. Donc, si vous voulez, ça a été le grand bouleversement de notre vie. Ça a été vraiment, on peut dire, sur le plan politique, ça a été le gros choc de notre vie, de voir De Gaulle, après qu'on l'ait acclamé, après qu'il soit rentré en Algérie, comme ça, et qu'il soit venu en Algérie en nous disant « je vous ai compris » et tout ça, de le voir tourner. Ça, c'était le grand choc.